La Confédération paysanne du Centre-Val de Loire s'est réunie le 22 mars dernier pour son Assemblée Générale. Pour rappel, la Confédération paysanne, c'est un syndicat agricole qui lutte pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs. Ce n'est pas nécessairement une agriculture biologique, mais c'est surtout un modèle cohérent, solidaire et respectueux, et qui permet à ses acteurs principaux, les paysans, d'en vivre décemment. Cette Assemblée Générale a été l'occasion de faire le point sur une crise qui touche de nombreux secteurs du monde agricole et qui est bien la preuve que le système actuel est à bout de souffle. Au micro de Studio Zef pour nous présenter leurs solutions, Laurent Pinatel, le porte-parole national de la Confédération Paysanne, Gilles Menou, porte-parole régional, et Hervé Bedouet, le référent lait de la région.
Pratiquement toutes les productions sont en crise. Dans la presse, on a beaucoup parlé du lait, de la viande, mais les céréales aussi. Il se trouve qu'on est quand même une grande région céréalière. Aujourd'hui, les céréaliers sont également en crise pour d'autres raisons que le lait et les bovins de viande. Mais en agriculture, la demande n'est pas élastique. Et quand l'offre n'est pas maîtrisée, ça induit des pertes de... des pertes de prix et des pertes de revenus conséquentes. En céréales, on est sur une production très abondante avec des stocks de report partout présents dans le monde. Tous les grands pays exportateurs de céréales ont un stock de report très important, si bien que le prix des céréales se casse la figure. Pour le lait, la surproduction est beaucoup moins importante, mais il y a quand même malgré tout une perte de prix quand même très très conséquente. Alors, bon, il se trouve que les éleveurs, eux, ils étaient un peu habitués à des périodes de crise. Les céréaliers étaient quand même un peu habitués, ils sont quand même pleinement touchés aujourd'hui. Les producteurs de porc, aujourd'hui, ils sont aussi très affectés. En viande bovine.
Ça fait longtemps.
Ils sont habitués presque. C'est une profession qui a énormément restructuré et fait disparaître beaucoup d'éleveurs. Les grandes menaces, il me semble, pour la viande bovine, c'est les accords de libre-échange internationaux, c'est le TAFTA et le CETA, qui risquent de faire venir en Europe encore davantage de viande et mettre en difficulté beaucoup d'éleveurs. Si bien qu'on est sur une zone agricole, ici, la Sologne, où ces surfaces agricoles ne peuvent être valorisées qu'en élevage, pratiquement, puisque la vocation de cette terre-là, c'est pas de faire des céréales, c'est de faire de l'élevage, à l'étang, ou de la viande, voire peut-être des moutons. C'est la production, je veux dire. Aujourd'hui, il y a des zones agricoles pour qui ça va être un réel problème, l'absence de revenus pour les producteurs.
Je vois pour le lait, on avait des systèmes quand même pas mal de polyculture-élevage, donc avec une part de céréales de grande culture qui permettait de résister même quand il y avait un prix du lait qui était bas, on l'avait bien vu à certaines années. Mais là on s'aperçoit que non seulement les producteurs de lait sont touchés par la baisse du prix du lait, mais s'ils font aussi des céréales, à terme ils vont être aussi touchés par cette crise aussi sur les céréales, et disons qu'il reste plus grand chose comme possibilité de revenus. Même des situations de ferme où c'était de la polyculture élevage, s'il n'y a pas une volonté de rechercher des économies, économie de charge, économie, recherche d'autonomie derrière ça, c'est-à-dire être plus autonome, être moins dépendant des achats d'aliments, des achats d'engrais, des achats... S'il n'y a pas une recherche d'autonomie et d'économie sur ces fermes-là, elles risquent d'être condamnées. En plus, par rapport à la crise qu'il y avait eu en 2009, les exploitations sont beaucoup plus endettées qu'il y a 5-6 ans. Les exploitations en difficulté, c'est les exploitations qui sont les plus endettées. Donc nous, ce que l'on préconise, c'est d'abord la recherche d'autonomie, d'économie, aller vers l'agriculture paysanne, ce qu'on appelle l'agriculture paysanne, c'est-à-dire une démarche vers plus d'autonomie, plus d'économie, être moins dépendant de l'extérieur pour retrouver de la valeur ajoutée sur l'exploitation. C'est une façon de retrouver de la valeur ajoutée. Nous, c'est une solution que l'on propose pour sortir de la crise et qui peut être adaptée à tout type d'exploitation, même les plus productivistes.
Tu veux qu'on en parle ?
On voit bien qu'il y a tellement de productions en crise, les unes après les autres. Il y a eu d'abord le porc, après le lait, la viande bovine, ses limites. Aujourd'hui, il y a les céréales qui entrent en crise. On sait que les fruits, ils n'ont pas eu une année extraordinaire. Donc, on ne peut pas dire que c'est des crises de conjoncture. On a mis en place des politiques dans les années 60. avec la PAC, toutes les lois qui ont accompagné la mise en place de la PAC, qui avait pour but d'améliorer l'efficacité économique, on va dire, de l'agriculture. Mmh. Et à l'époque, il faut s'en rappeler, parce que ce n'est pas neutre aujourd'hui, la volonté de ne pas dépendre au niveau alimentaire des États-Unis. C'était à l'époque du plan Marshall, et on disait qu'il ne faut surtout pas dépendre d'accords commerciaux, on va dire, avec les États-Unis. Ce qui est tout le contraire d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on est en train de signer des accords commerciaux avec eux, avec le TAFTA.
C'est pas signé, hein.
C'est pas signé, non. Mais on négocie.
Sans doute jamais signé.
Donc c'est quand même assez intéressant de voir que l'Europe qui s'est bâtie sur cette autonomie et cette indépendance alimentaire, notamment par rapport aux États-Unis, cette même Europe est en train de tenter de signer des accords avec les États-Unis. Bref, on a développé l'agriculture pour faire plus de kilos de viande par vache, plus de kilos de lait, plus de augmenter la productivité. Ce qui était sûrement intéressant à une époque et ce qui était nécessaire. Simplement, après, on a perdu le fil de ce qu'était l'agriculture. Et au-delà d'une crise de production, je pense qu'il y a une vraie crise d'identité du monde agricole. Les jeunes qui manifestaient, parce qu'il y a beaucoup de jeunes hein, qui sont partis en manif, soit cet été, soit ce début d'année, c'est des gens qui ont perdu le fil de leur métier. Ils ne se reconnaissent plus dans ce qui est devenu leur métier. Les mecs, ils n'ont plus de revenus. Parce que, le lait, Gilles parlait de surproduction laitière, 4% de lait en trop, c'est 20% de prix en moins. Dire, c'est quand même énorme. Hein.
Ah oui,
4% de lait en trop, 20% de prix en moins. Donc ça, c'est la première chose. Les gens, ils ont perdu le revenu. Il y a un an, on leur disait, fin des quotas laitiers, c'est une opportunité formidable. Vous allez pouvoir produire pour le monde entier, notamment la Chine. Les gens, ils ont investi en faisant confiance à ceux qui leur tenaient ce discours, c'est-à-dire essentiellement les politiques, mais aussi le syndicalisme majoritaire qui disait, il y a des marchés nouveaux, allez-y. Les gens, ils ont investi. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans une impasse qu'ils n'ont pas vu venir. Donc, ils ont été trompés, c'est assez douloureux d'être trompés. Ils ont investi, ils n'ont plus de revenus. Et en plus, on est dans un mouvement de société où il y a une prise de conscience environnementale, de bien-être animal, qui stigmatise une grande partie des gens en leur disant « Ouais, mais vous êtes des pollueurs, les gars. Vous êtes des gens qui faites du mal aux animaux. » Donc, enfin, mettez-vous à la place des jeunes qui sont dans cette situation-là. Plus de revenus, énormément de travail, souvent plus de vie de famille autour. Et je ne suis pas en train de dresser un tableau pessimiste, dramatique. C'est des réalités. Donc, il y a cette crise d'identité. Et on ne sortira de cette crise que par la reconquête du prix. Et la reconquête du prix, elle passe par des décisions politiques européennes. C'est-à-dire, il y a trop de lait, et ben, il faut limiter la production laitière. C'est-à-dire, on parle de négociations commerciales. Si Michel-Édouard Leclerc il veut acheter 100 litres de lait et qu'on lui en propose 150, comprenez bien qu'il va l'acheter à celui qui le vend le moins cher. Quoi.
Oui.
Donc il faut organiser la production pour s'il y a besoin de 100 litres, on vend 100 litres. Schématise, hein, c'est pas 100 litres. Il faut aussi redonner du pro aux éleveurs par travailler sur les produits à haute valeur ajoutée, ce qu'on a oublié un peu en France, notamment au niveau de la production porcine. La haute valeur ajoutée, la salaisonnerie, charcuterie, c'est les Italiens aujourd'hui qui sont sur ces marchés-là. Et on est dans une compétition... toujours du moins 10 ans en fait. Sur le porc par exemple. On dit oui mais les Allemands. Ben, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui le porc allemand du porc français? C'est à peu près les mêmes bâtiments, c'est à peu près la même nourriture, c'est à peu près les mêmes conditions d'élevage, les éleveurs sont à peu près de la même technicité. Qu'est-ce qui différencie si ce n'est que les Allemands ils payent leurs ouvriers à coups de fronde et que nous on a un système social qui permet de préserver un peu et le salaire et la protection sociale de nos salariés. Donc est-ce qu'il faut rentrer dans un système où on va continuer à faire en sorte de moins payer les gens pour pouvoir garder un petit peu d'espoir de tenir 10 ans de plus, parce qu'en fait c'est que reculer pour mieux sauter. Ou alors on se dit ok, on s'est trompé. C'est vachement douloureux de se dire on s'est trompé. On s'est trompé, on est allé au bout d'un système, et là c'est nécessaire de faire demi-tour. Quoi. De faire demi-tour vers ce que disait Hervé, l'agriculture paysanne. Entre autres, il y a l'agriculture biologique, enfin, on l'appelle comme on veut, il y en a qui l'appellent l'agriculture durable. C'est une agriculture qui travaille sur l'autonomie du paysan.
L'autonomie,
alors pas l'autonomie uniquement de dire je ne vais pas acheter de bouffe à l'extérieur, mais l'autonomie de dire moi j'ai envie de faire cette production, j'organise l'endettement de ma ferme, j'organise l'assolement de ma ferme, de manière à ce que ça puisse être un peu plus fluctuant, m'adapter en fait, avoir une agriculture qui correspond à mon territoire.
Avoir un pouvoir de décision.
En gros, c'est revisiter tout le modèle de production depuis le départ, en intégrant la santé animale, la santé des consommateurs,
l'environnement,
et puis les relations sociales.
Le développement
aussi.
Local.
Et puis l'aménagement du territoire aussi, hein, la vitalité du territoire aussi. Hein.
On dit qu'on est en train de faire des déserts ruraux avec les crises agricoles. Et quand on parle de désert rural, tout le monde imagine le Cantal, le Puy-de-Dôme, bah, le désert rural, il est plutôt chagif.
En Beauce, on a les endroits où on arrivait à 9 habitants au kilomètre carré, enfin 9 habitants au kilomètre carré, ça va être très difficile de remettre l'économie, d'avoir des écoles, d'avoir des commerces à proximité, ça va être très très difficile ça, je veux dire.
Et ça s'est pas fait tout seul, ça.
Aujourd'hui...
Ça s'est fait parce qu'il y a eu des primes qui ont incité les gens à aller chercher plus en plus.
C'est un modèle agricole qui nous a amené là, je veux dire. Donc aujourd'hui, il y a deux choix possibles. Hein. Soit on revisite complètement ce modèle agricole et on essaye d'y contribuer, je veux dire. Soit on pérennise ce modèle en virant les paysans pour que ceux qui restent aient un peu de revenus, je veux dire. C'est un système libéral.
Mais on accentue encore.
C'est un système libéral.
Pour que les paysans y restent nombreux, il faut qu'ils aient des prix. Donc après, comment on obtient des prix? Par l'organisation de la production. S'il y a trop de lait sur le marché, on demande une baisse de la production pour adapter l'offre à de la demande, en fait. Hein. Ouais. Je veux dire, on nous dit c'est pas libéral, limite c'est communiste. Les plus grands libéraux de la planète, c'est les marchands de pétrole. Les marchands de pétrole, dès que le prix baisse, ils ferment la vis. Hein, et les prix remontent tout de suite. Mmh. Et nous, on ne demande pas à faire de la spéculation sur les biens alimentaires. On demande simplement à ce que les paysans soient rémunérés correctement. Et s'ils sont rémunérés correctement, il faut aussi y intégrer la vie, l'aménagement du territoire, il y a un coût pour les communes d'avoir des zones désertifiées, il y a un coût pour l'ensemble de la société d'avoir des zones, une désertifiée et des zones surintensifiées. Enfin, la dépollution des eaux dans certaines régions ultra-intensives, notamment en Bretagne, c'est quand même un vrai problème, quoi. La concentration de la majorité des productions hors sol, volailles et porcs en Bretagne, c'est quand même un problème environnemental fort, quoi. Alors que du porc, on en mange partout. Pourquoi on ne déciderait pas d'avoir un grand plan de redistribution de la production porcine sur l'ensemble du territoire? Mais par contre, il faut qu'il y ait de l'argent qui contribue à ça. Alors la grande chance, ce que Gilles disait, il y a des politiques qui ont fait ça. Et bien, nous, on croit beaucoup aux politiques publiques, on croit beaucoup aux décisions politiques et aux actes politiques. Ce que des décisions politiques ont pu faire, d'autres décisions politiques peuvent amener à faire autre chose. Alors après, on va nous dire, il n'y a pas de fric. Ben, il se trouve que nous, en agriculture, il y a quand même un budget assez conséquent. C'est 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros tous les ans de la PAC en France.
43% du budget européen.
Voilà. Avec ces 10 milliards d'euros, il nous semble que, en les déplaçant un peu, en allant plutôt vers une agriculture relocalisée, une agriculture de qualité, une agriculture pas forcément de circuit court, hein, qui peut être une agriculture de filière, mais une agriculture qui serve en priorité un marché local plutôt qu'un marché international, eh ben, il nous semble qu'on peut arrêter l'érosion du nombre de paysans, dans un contexte où on est loin du plein emploi quand même, arrêter l'érosion du nombre de paysans, et surtout répondre à, j'allais dire, la politique la plus élémentaire qui devrait être menée, la politique alimentaire. Enfin, on a la sixième puissance économique mondiale, moi je veux bien qu'il n'y ait pas de rond en France, mais... S'il n'y en a pas dans la sixième puissance économique mondiale, j'imagine pas derrière nous ce qu'il doit faire. Il y a des gens qui meurent de faim. S'il n'y avait pas les Restos du Cœur, Secours catholique, Secours populaire, il y a des gens qui crèveraient de faim dans notre pays. Il y a des gens qui mangent de mauvaise qualité parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de revenus. Et si on ne se dit pas la priorité c'est l'alimentation, on n'y arrivera pas. Et si on se dit par contre, il faut une politique alimentaire comme priorité européenne, forcément la première réponse qu'on va apporter, c'est de dire il faut des paysans nombreux. Parce qu'on ne peut pas faire du lait ou de la viande comme on fabrique des pièces de bagnole dans une usine. Au lieu d'avoir une politique de volume subventionnée par la PAC, on peut avoir une politique de qualité subventionnée par la PAC. Quand on voit que dans la région centre, il y a la suppression de l'aide au maintien bio. Quoi.
On n'est jamais autant qu'ils voulaient passer au bio. Je veux dire, ça veut dire qu'il y a un début de prise de conscience dans la profession qui montre bien qu'il y a des gens qui ont compris que le modèle actuel, il en a une impasse hein, et qu'il a besoin d'être réorienté. Ouais. Suppression de l'aide au maintien bio et puis l'enveloppe pour la conversion au maintien bio est insuffisante.
Pas suffisant.
Elle a été mangée très rapidement.
Si on estime que la santé des consommateurs elle est importante, que la préservation de l'environnement elle est importante, que la préservation de la santé du paysan, ben c'est important quand même la santé du paysan, c'est lui qui utilise les pesticides. Donc si on arrive à l'aider à s'affranchir des pesticides, on va protéger sa santé. Si on estime que ça c'est important, eh ben, il faut mettre les moyens. Quoi. Et une politique régionale de ce nom, elle doit aider les paysans à s'affranchir et à passer en bio. Quoi. Les pesticides aujourd'hui, c'est quand même un outil de compétitivité. Pour écraser les charges, eh ben, les pesticides, c'est aussi ça. En production fruitière, par exemple, mettre des filets de protection à tous les arbres, aller sortir tous les fruits qui commencent à pourrir sur un arbre ou filer un coup de pesticides, je veux dire, le choix il est vite fait. Quoi. Donc c'est comment on arrive avec des politiques publiques à laisser le choix aux gens de changer de système, favoriser les transitions agricoles. On est allé au bout de la logique. Le modèle qu'on nous présentait comme l'avenir de l'agriculture française, c'est le modèle breton. Bon, on voit où il est le modèle breton.
Et quand on parle des politiques publiques, c'est les politiques européennes. Hein.
Oui, européennes, bien sûr.
Oui, oui.
déçu. On a l'impression, nous, on était ce matin en réunion au ministère de l'Agriculture avec Stéphane Le Foll sur la crise des tiers. On a l'impression qu'il y a une prise de conscience quand même qu'il faut faire quelque chose. Alors, est-ce que c'est le fait d'être sur sa dernière année de mandat et qui revient un peu plus à ses fondamentaux du début, où il nous parlait beaucoup d'agroécologie, de transition agricole? Là, on a vraiment l'impression que, oui, il y a une prise de conscience, au moins du gouvernement français, que là, il faut faire quelque chose.
C'était la Confédération Paysanne sur Studio ZEF. N'hésitez pas à aller visiter leur site confédérationpaysanne.fr pour en savoir plus sur leurs actions. Et nous, on se quitte en musique avec les Cow-boys fringants.
Les vers de terre se terrent dans les artères. Jamais dans le tunnel été comme hiver. Ils s'avancent comme des automates dans une conformité triste et plate. Font leur job sans se poser de questions. Au labo ou ben au bout d'un hameçon. Enrichissant celui qui tient la ligne. Comment toutes les conneries qu'on leur a dit. Et comment on s'emmerde chez les lombriques. Où l'ennui est devenu pathologique. On leur donne des bébelles, des somnifères. La vie en 140 caractères. Et s'ils sont bien conscients de ce non-sens, bien peu vont se déranger de la cadence. Comme un immense ballon qui se dégonfle. On ne réveille pas le confort qui ronfle. Et devant l'échec de leur existence, l'envie et la médisance les étranglent. L'angoisse leur serre le cœur comme une sangle. Quelquefois quand ils en ont plein leur casse, les vers de terre émergent à la surface. Frappés par leurs propres contradictions, écœurés de voir que le monde tourne pas rond. Mais faut qu'ils soient affamés en calvaire, pour qu'ils se tiennent et restent solidaires. La plupart préfèrent sauver leur derrière, plutôt que de faire sauter la canne de verre. Alors cynique, ils retournent dans le noir, en scandant qu'ils ne veulent plus rien savoir. Et chacun fait sa petite calice d'affaires. Au fond, sont trop avec ses œillères.